Voilà, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, chapitre 2, à partir du verset 13, versets 13 et 14. Deutéronome 2, 13 et 14. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Amen. Voilà, ce court passage nous présente le peuple d'Israël qui est sur le point d'entrer dans le pays de Moab, qui est, on va dire, la dernière étape avant d'entrer dans la terre promise, le pays de Canaan. Et le peuple d'Israël vient de passer 38 ans dans le désert. 38 ans à tourner en rond dans le désert, à errer. 38 ans d'inertie. Inertie, c'est ce phénomène de passivité, ce phénomène d'immobilisme. Et c'est ce que vient de vivre le peuple dans le désert. Mais le temps de la régénération est arrivé. La régénération voulue par Dieu s'est opérée. Il a fallu 38 ans, mais elle s'est opérée. Et à présent, le peuple est prêt pour se lever. Il est prêt à répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, maintenant, levez-vous et passez. Il y a un passage à effectuer et désormais, le peuple est prêt. Dans la vie, nous traversons des périodes agréables, des périodes moins agréables, des périodes faciles, des périodes difficiles. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu est près de nous à chaque instant. Il est là à chaque instant. Sa présence est continue, malgré ce que l'on peut penser, même si parfois les choses de la vie font qu'on croit qu'il nous a oubliés. Mais si cette pensée vous vient, combattez-la. Dites-vous que c'est faux. Dieu est là, à chaque instant. 38 ans d'inertie. L'inertie, je disais, c'est une absence de réaction, une absence d'initiative, un manque d'énergie physique ou morale, qui conduit à un état d'immobilisme. Et c'est ce qui s'était passé pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, a vécu de grandes choses dans la présence de Dieu. La mer qui s'est ouverte, qui s'est refermée sur l'armée de Pharaon, la manne, l'écaille, la colonne de nuée, la colonne de feu. Le peuple a vu de grandes choses de la part de Dieu. Et puis au mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse les commandements, il lui a donné la loi. Il lui a donné les plans du tabernacle, il a donné ses instructions. Et avant que le peuple se remette en route pour repartir vers la terre promise, il a demandé à Moïse de dénombrer les hommes de guerre parmi le peuple. Et le peuple va repartir, une fois que ce dénombrement est réalisé, le peuple va repartir vers Kadès-Barnéa. Et l'objectif au départ, après Kadès-Barnéa, c'est de rentrer dans le plan de Dieu, de rentrer dans la terre promise. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, parce que petit à petit vont se produire des événements qui vont mener le peuple à la déroute. Premier événement, c'est Marie et Aaron qui vont s'opposer à Moïse par orgueil, par jalousie. Ils vont s'opposer à Moïse, et quand les dirigeants spirituels en sont à ce stade, c'est par avance de mauvaises choses qui vont arriver pour le peuple. Et c'est ce qui va se passer. Un deuxième événement va se produire, c'est les espions qui vont être envoyés, les 12 espions, un par tribu, qui vont être envoyés pour visiter le pays de Canaan, aller voir ce qui s'y passe. Et quand ils vont revenir, sur ces 12 espions, 10 d'entre eux vont être pessimistes. Ils vont voir le mauvais côté de la terre promise et ils vont décourager le peuple. Nous n'y arriverons jamais. Il y a plein de géants, nous ne sommes pas assez forts pour vaincre. Mais deux d'entre eux, Caleb et Josué, au contraire, étaient optimistes, parce qu'ils avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Dieu et ils disaient, avec notre Dieu, tout est possible. Malheureusement, le peuple va plutôt se fier et se ranger du côté des pessimistes. Certainement par manque de foi. Certainement par découragement, mais enfin le peuple va plutôt regarder du côté des pessimistes. Ils vont oublier tout ce qu'ils ont vu, les grandes choses qu'ils ont vues de Dieu, tout ça, ils vont l'oublier complètement. et ils diront même qu'ils sont prêts à repartir en Égypte. Le peuple est donc tombé très bas. Et Dieu va faire preuve à ce moment-là d'une grande sévérité vis-à-vis d'Israël. Nombre, chapitre 14, verset 34, dit « Vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années et vous saurez, un peu plus loin, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » On a dit tout à l'heure que Dieu est toujours avec nous. Mais ici, Dieu dit au peuple, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Et alors, ils vont marcher, tourner en rond dans le désert pendant 38 ans. 38 longues années. Ils étaient sur le point de rentrer dans le pays de Canaan. Ils étaient à deux doigts. Quand les espions ont visité le pays de Canaan, c'était pour revenir et dire, allons-y. Et à ce moment-là, ils y allaient. Ils venaient de partir du mont Sinaï. Ils étaient prêts à rentrer dans le pays de Canaan. Si le plan de Dieu s'était déroulé parfaitement à ce moment-là, il rentrait tout de suite dans le pays de Canaan, il prenait tout de suite possession de la promesse de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils avaient deux problèmes. Le premier problème, c'est leur incrédulité, leur manque de foi, leur incrédulité. Et le deuxième problème qui découle du premier, c'est leur ingratitude envers Dieu. Ils n'ont pas su remercier Dieu pour ses bontés, ils n'ont pas su reconnaître la réalité de ce que Dieu avait opéré dans leur vie. Il y a une expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, c'est le peuple murmurait. Le peuple murmurait, le peuple murmurait, le peuple murmurait contre Dieu, le peuple murmurait contre Moïse, le peuple murmurait contre Josué, le peuple murmurait contre Laman, le peuple murmurait contre tout. Ils n'étaient jamais contents, ils n'en avaient jamais assez. Ils avaient soif et ils avaient faim. Dieu ne faisait jamais suffisamment pour eux. Et se plaindre de Dieu, ne pas reconnaître sa providence dans nos vies, ça vaut aussi pour nous. C'est une première étape qui nous conduit à une étape difficile, c'est-à-dire être séparé de Dieu, être perdu, tourner en rond, errer pendant longtemps. Reconnaître la providence de Dieu dans nos vies, c'est essentiel. C'est ce qu'il attend de nous chaque matin, parce que ses bontés se renouvellent. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Et un petit peu plus loin, au verset 10, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » L'exterminateur. En grec, le mot employé, c'est « holotreoutes », qui signifie « l'exterminateur » ou « le destructeur ». C'est l'ennemi. Lui, il a un objectif. Son objectif, c'est séparer les enfants de Dieu de leur père. Ça, c'est son objectif. Il s'y prendra de toutes les façons possibles et imaginables. Tant que nous sommes dans la présence de Dieu, il ne peut rien contre nous. Mais à partir du moment où nous murmurons, à partir du moment où nous tournons le dos à Dieu, Dieu a dit « Vous serez privés de ma présence ». Et quand nous sommes privés de la présence de Dieu, nous devenons une proie très facile pour l'ennemi. La parole dit qu'il est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Il nous dévorera le jour où nous serons séparés de Dieu. Dans le désert, il aura réussi à prendre la vie de tous les hommes, excepté Josué et Caleb. Deux hommes sur 600 000. La parole nous dit qu'il y avait 600 000 hommes de guerre, hommes de pied, dans le peuple d'Israël. 600 000 plus les familles. Mais il aura réussi à dévorer 600 000 hommes, excepté deux qui avaient conservé foi en Dieu, qui marchaient avec Dieu de tout leur cœur. Et alors Dieu leur a dit, vous serez privés de ma présence. Vous serez privés de ma présence. Et nous, on dit que Dieu est toujours avec nous. Et c'est la promesse de Dieu, il sera toujours avec nous. Mais il y a une différence entre être privé de la présence de Dieu et le fait que Dieu ne soit pas avec le peuple. Dieu était avec le peuple. D'ailleurs, quand on lit la suite des événements, lors de l'épisode des eaux de Mériba, Dieu était là. à la mort d'Aaron, Dieu était là. Lors de l'épisode du serpent d'airain, Dieu était là. Lors des victoires du peuple d'Israël contre les armées de Sion et de Og, Dieu était là. Il a toujours été là, mais eux, ils étaient privés de sa présence. Et ça change tout. Comme Paul avertit l'église de Corinthe, il nous avertit tous, soyons reconnaissants envers Dieu. Parce que Dieu n'acceptera pas, comme il n'a pas accepté pour le peuple d'Israël, il n'acceptera pas que nous soyons incrédules, il n'acceptera pas que nous soyons rebelles à son égard. Et une telle conduite nous prive de la présence de Dieu. Et nous nous en privons tout seuls, quelque part. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Je vais essayer de chanter. J'espère que... Non, normalement, il ne devrait pas pleuvoir. Vous pouvez chanter avec moi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est vrai. Soyons comme Josué, soyons comme Caleb, reconnaissons les bontés de Dieu et reconnaissons son soutien avant toute chose. C'est ce qui nous promet sa présence avec nous. C'est ce qui garantit sa présence avec nous. Et quand Dieu est avec nous, l'ennemi ne peut rien contre nous. Amen. Et donc le peuple avait erré, le temps de la régénération était arrivé. La régénération, c'est le renouvellement. Dieu voulait ce renouvellement. Il voulait que tous les hommes de guerre qui avaient été recensés au mont Sinaï soient passés. Et à ce moment-là, le peuple pourrait de nouveau aller vers la terre promise. Régénération, c'est renouvellement, rétablissement total. C'est aussi, en termes médical, la reconstitution des tissus organiques qui ont été lésés lors d'un accident, lors d'un événement. Nous lisons dans Nombre, chapitre 14, versets 29 et 30. Nombre 14, 29, 30. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphouné, et Josué, fils de Nun. Il faudra donc un renouvellement complet de génération pour que le peuple puisse entrer dans Canaan. C'était l'exigence de Dieu. Il dit au peuple, tu veux entrer dans mon plan, alors il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça que Dieu est en train de dire au peuple. Et pour nous, est-ce que pour que nous entrions dans le plan de Dieu, il faut un renouvellement complet? Est-ce que pour nous, il faut un changement radical pour que nous puissions entrer dans le projet de Dieu dans nos vies? Oui, bien sûr. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que produit la rencontre avec Jésus, une transformation totale, en profondeur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et si les choses anciennes sont toujours là, ça peut arriver ou qu'elles ressurgissent. Il faut lutter contre ça. Parce que tant que la chose ancienne du peuple d'Israël était là, son ingratitude, son manque de foi, il n'allait pas entrer dans le pays de Canaan. Ça a pris 38 ans. Il a fallu 38 ans pour que tous les hommes de guerre périssent et que la génération suivante prenne la place complètement. Donc je prie, moi, pour ma famille, mais je prie aussi pour toi, mon frère, ma sœur, que dans ta vie, toute chose passée soit ancienne et que toute chose soit devenue définitivement nouvelle. Et priez pour moi aussi. On a besoin de prier les uns pour les autres, pour ce renouvellement. Et le peuple était donc prêt à se lever. C'était le moment, et d'ailleurs la parole dit « maintenant ». La génération était passée, c'est maintenant. Maintenant, levez-vous. Le peuple était à l'arrêt, le peuple était statique, couché, assis, je ne sais pas, mais Dieu lui dit « lève-toi ». Le verbe utilisé en hébreu pour lever, c'est « kum », Q-U-W-M. Il a plusieurs significations, « se lever », »,« se dresser », »,« devenir puissant ». C'est le verbe qu'on utilise pour décrire celui qui se relève après avoir chuté. C'est le verbe qu'on utilise pour celui qui se redresse après avoir été couché. C'est le verbe qu'on utilise pour décrire celui qui devient puissant après avoir été faible. Il est tout à fait approprié ici. Et il a une autre signification. J'ai trouvé que c'était magnifique. La parole de Dieu, elle contient des trésors. Dans Genèse 6, 18, Dieu parle à Noé et lui dit « Mais j'établis une alliance avec toi. » Et en hébreu, le verbe établir, donc le verbe utilisé pour établir, c'est le même verbe, c'est « koum ». Quand notre homme de guerre est enterré et que le renouvellement s'est produit, que nous avons réellement rencontré Jésus, alors Dieu nous relève et avec le même verbe qu'il nous relève, il établit une alliance avec nous. Je trouve que c'est magnifique. Le même Dieu qui a dit « Vous serez privés de ma présence », il nous dit maintenant « Je réaliserai une alliance avec toi ». Amen. C'est la fidélité de Dieu. Et donc le peuple s'est levé, il était prêt à passer le torrent de Zéred. Et nous passâmes. Le passage symbolise ici la foi et l'obéissance du peuple. Puisqu'il est dit « Passez le torrent, maintenant levez-vous et passez le torrent, nous passâmes le torrent. » Les deux phrases se suivent. Le peuple a retrouvé sa foi en Dieu. Il y a eu un renouvellement complet, le peuple a retrouvé sa foi en Dieu. Il est prêt à aller de l'avant. C'est fini l'incrédulité, c'est fini le manque de reconnaissance. Maintenant, c'est la foi et l'obéissance. Passez le torrent, nous passâmes le torrent. Action, réaction. Il n'y a plus de murmure. Il faut passer le torrent. « Oui, mais Seigneur, on va se mouiller les pieds. » Non. Personne ne dit rien, on se lève, on passe le torrent. Et ce torrent, il est symbolique. Le torrent de Zéred, il coule dans la mer Salée, au sud-est, et il se jette dans cette mer, et il constitue une frontière entre le pays d'Édom et le pays de Moab. Et une fois que le peuple a passé cette frontière, en fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le désert, l'errance, les difficultés, tout ça est derrière, et le peuple va de l'avant et court vers la terre promise. Donc ce message, il est pour chacun de nous. Il nous invite à regarder ce que fait Dieu pour nous, à ne pas murmurer. À ne pas murmurer pour ne pas ouvrir la porte à l'exterminateur qui, lui aussi, est près de nous. Ne l'oublions pas. Mais retenons que nous ne sommes jamais privés de la présence de Dieu si nous sommes reconnaissants. Notre reconnaissance, notre amour pour Dieu nous protège et permet à Dieu de rester près de nous. Job 33,14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Je dis ça parce que l'histoire du peuple d'Israël qu'on vient d'entendre, elle est répétée dans le Nouveau Testament, elle est répétée dans les Évangiles, dans un contexte complètement différent. C'est comme, pour ceux qui ont connu l'époque des disques en vinyle, il y avait une face A, une face B. Moi, quand j'étais petit, j'avais un manche disque. Donc on mettait le disque, on écoutait une version d'une chanson, puis on sortait le disque, on le tournait, et on écoutait l'autre version. Donc là, on va écouter la deuxième version, la face B du disque. C'est dans Jean, chapitre 5, versets 2 à 9. Tout le monde connaît, je pense. C'est le malade de la piscine de Bethesda. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Beaucoup de similitudes entre les deux textes. Les 38 ans, évidemment, mais il n'y a pas que ça. La maladie pour l'homme de la piscine, mais la maladie spirituelle du peuple dans le désert. « Lève-toi, lui dit Jésus, comme l'Éternel a dit « Lève-toi » au peuple d'Israël. 38 ans d'inertie. Il a fallu pour l'homme malade aussi le temps de la régénération pour qu'il soit prêt à se lever. Quand Jésus lui a dit « Maintenant, lève-toi et marche », il s'est levé. Il a marché. Il était prêt pour le passage, c'est-à-dire laisser son ancienne vie et en trouver une nouvelle. 38 ans d'inertie pour l'homme qui était malade, ce n'était pas la même inertie. Le peuple d'Israël, il était, comme on dit, enfermé dehors. Il était enfermé à ciel ouvert, tourné en rond dans le désert. Lui, il était enfermé dans son corps. Il était malade. Mais comme le peuple d'Israël avait deux maladies, première maladie, c'est son errance dans le désert, deuxième maladie, son ingratitude envers Dieu, mais l'homme de la piscine de Bethesda, il avait deux maladies. Il avait une maladie physique, on ne sait pas quelle maladie il avait, mais visiblement, il était paralysé, il ne pouvait pas, il devait rester couché, mais il avait aussi une maladie spirituelle. Il y a une phrase qui m'interpelle dans ce passage, et ça m'a même dérangé. C'est la phrase « Ils attendaient le mouvement de l'eau, les malades, ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. » Ça me dérange parce que cette phrase, elle est affirmative. Elle présente les choses comme si elles étaient réelles, comme si ça se passait effectivement comme ça, comme si c'était vrai qu'il y avait un ange qui descendait, qui remuait l'eau de la piscine, et à ce moment-là, le premier qui plongeait dedans, il était guéri, il était sauvé. Et après tout, peut-être que c'était vrai, je ne sais pas. On peut penser que c'est une croyance ou une superstition de l'époque. Il y en a qui disent que cette phrase a été rajoutée par un copiste, que les premières versions des évangiles écrites en grec dans les quatre premiers siècles, que ces versions-là n'intègrent pas cette phrase et que c'est un copiste qui l'aurait rajoutée par la suite. Mais aujourd'hui, elle est là. Moi, quand je prends ma Bible, elle est là. Cette phrase, elle est là. Si elle est là, c'est que Dieu veut nous parler. Sinon, elle ne serait pas là. Si un copiste l'a rajoutée, c'est parce que Dieu voulait qu'il la rajoute. Je le prends comme ça. Et alors, si elle doit être là, que veut nous dire Dieu avec ça? Moi, quand je dis que ça me dérange, c'est parce que je ne reconnais pas l'amour de Dieu dans cette phrase. Je ne reconnais pas l'amour de Dieu au travers de cette action d'un ange qui viendrait de temps en temps faire bouger l'eau, avec beaucoup de malades autour de la piscine, handicapés, qui ne peuvent pas se déplacer. Et alors, le premier qui arriverait à se jeter dans l'eau serait guéri. Et tous les autres ne seraient pas guéris. Je ne reconnais pas là l'amour de Dieu. Parce que c'est cruel. Je trouve que c'est cruel et Dieu n'est pas cruel. Dieu est amour. Le principe ici pour être sauvé, c'est d'être le premier. C'est complètement inéquitable. C'est complètement injuste. Et Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et donc un ange venait. Donc si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas un ange de Dieu qui vient, c'est un ange qui vient d'ailleurs. Et c'est un ange peut-être envoyé par l'ennemi. Ézéchiel 28,14 nous dit « Tu, c'est le diable, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Apocalypse 12,9 parle de Satan et de ses anges. 2 Corinthiens 11,14 dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » L'écriture ici, elle est affirmative. Elle dit que l'ange venait et que le premier qui tombait dans l'eau était sauvé. Bethesda signifie la piscine. Piscine de Bethesda, c'est piscine de la miséricorde. Et tous les malades qui étaient présents dans cette piscine de la miséricorde étaient malades deux fois, une maladie physique et une maladie spirituelle. Leur espérance, elle était placée dans l'ange qui venait de temps en temps. Dieu ne vient pas de temps en temps. Dieu est présent tout le temps. Dieu ne remue pas l'eau. Dieu nous conduit près des eaux paisibles. Dieu ne guérit pas le premier. La parole dit qu'il a envoyé son fils Jésus pour quiconque croit en lui. Pas le premier, mais tous. Et donc l'homme est resté 38 ans dans cet état parce qu'il ne pouvait pas être le premier. Ce n'était pas possible. Mais surtout parce qu'il était resté figé sur cette croyance, cette espérance qu'il avait placée dans un ange qui n'en avait rien à faire de lui. Et l'arrivée de Jésus va complètement chambouler la vie de cet homme. La piscine de la miséricorde va retrouver, le nom de cette piscine va retrouver du sens lorsque Jésus va se présenter à la piscine. Et après tout, pourquoi Dieu enverrait-il un ange de temps en temps alors qu'il avait déjà envoyé son fils? Ça n'aurait aucun sens. Le peuple d'Israël a marché pendant 38 ans dans le désert à cause de son orgueil, de son incrédulité, de son ingratitude. Et l'homme était là, malade depuis 38 ans. Jésus arrive et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jésus sait, Jésus connaît la réponse. Mais Jésus pose quand même la question. C'est déroutant. Et la réponse du malade est encore plus déroutante. Il lui dit Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend sur moi. Jésus lui demande, veux-tu être libéré de 38 ans de paralysie? Et lui, il lui répond, c'est pas possible, je ne serai jamais le premier. Est-ce que nous répondrions, si Jésus s'approchait de nous et dit, veux-tu être libéré de cette maladie? Veux-tu être libéré de ce problème? Veux-tu que je réponde à ta prière? Ben, nous ne répondrons pas à Jésus. Jésus, ce n'est pas possible. Nous savons que c'est possible. Nous savons que Jésus peut tout faire. Jean conclut que cet homme ne connaissait pas Jésus, qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. S'il avait su qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu, il aurait dit, il se serait mis, il n'aurait pas pu se mettre à genoux, mais il aurait imploré, il aurait crié le nom de Jésus, il aurait demandé, délivre-moi Seigneur. Et la suite le confirme, puisque quand il aura retrouvé l'usage de ses membres et que les pharisiens lui demanderont qui t'a guéri, il dira aux pharisiens, je ne sais pas qui c'était. Mais ça veut dire pour nous, ça veut dire quoi? Que Jésus peut entrer dans ta vie, même si tu ne le connais pas, même si tu ne l'as jamais regardé, même si tu ne crois pas en lui, et qu'en un instant, par sa main puissante, il peut te renouveler complètement, il peut te guérir, il peut te relever, il peut te rétablir, il peut établir une alliance avec toi. Amen. Donc le temps de la régénération est arrivé. Je disais tout à l'heure, en médecine, c'est la reconstitution de tissus organiques lésés, la régénération. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Pour le peuple d'Israël, c'était le renouvellement complet de la génération. Pour lui, c'est le renouvellement complet de son corps. Jésus va agir immédiatement. La piscine de Bethesda devient vraiment la piscine de la miséricorde. Ce n'est plus la piscine de la cruauté ou la piscine de l'injustice. 2 Corinthiens 5, 17, je le disais tout à l'heure, dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles quand nous rencontrons Christ. Il y avait un homme de guerre aussi dans le corps de cet homme, et le renouvellement a opéré, et il devient un homme nouveau. Il est prêt maintenant à se lever, donc Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. En médecine, c'est impossible, quand vous êtes resté 38 ans couché, il en faut même beaucoup moins que ça. Il est impossible de vous lever, de marcher, de prendre votre lit et de partir. C'est impossible pour des raisons physiologiques. Déjà parce que les muscles ont fondu, les muscles sont atrophiés. Vous n'avez plus aucune force, vous ne pouvez pas vous lever. Mais ici, par une force surhumaine, l'homme peut se lever, peut marcher et peut partir. Amen. Sans transition. Il était couché, il est debout. Il était paralysé, il marche. Et donc il est prêt pour passer, laisser derrière lui son ancienne vie et aller de l'avant avec Jésus. Jésus dit, lève-toi, aussitôt il se lève. Donc il fait preuve de foi et d'obéissance. Même si ça fait 38 ans qu'il est couché, il se lève, il prend son lit et il marche. Alors il prend son lit, le mot grec c'est krabatos, qui signifie lit de camp ou civière. Donc ce n'était pas un lit, d'accord, c'était ok, mais quand même, il prend son lit. Et je me suis demandé si j'étais paralysé pendant 38 ans, quelle serait ma réaction si d'une seconde à l'autre, je pouvais me lever et marcher. Je n'ai pas su trouver, mais je pense que j'aurais crié, j'aurais une réaction, j'aurais parti en courant, j'aurais été fou de joie, j'aurais crié, j'aurais peut-être sauté au cou, je ne sais pas. Lui, il obéit. Il prend son lit et il marche. Il obéit à Jésus. Jésus lui a dit, tu prends ton lit et tu marches. Il a pris son lit et il a marché. C'est peut-être un détail, mais pour moi, j'y vois la foi et l'obéissance de cet homme qui a compris qu'il venait se passer, il venait de se passer un événement majeur dans sa vie, qu'il le devait à l'homme qui était en face de lui. Il ne le connaissait pas, mais il a compris que ça venait de lui et il lui a obéi. C'est un encouragement pour nous aussi. Un peu plus loin, au verset 14, il est dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On retrouve l'homme non plus dans la piscine, à attendre l'ange, ou à encourager ceux qui attendent l'ange, il est dans le temple. Il est dans le temple. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il faisait dans le temple, ce n'est pas dit, j'espère qu'il est venu rendre grâce à Dieu, mais il était dans le temple. Et Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Première étape, Jésus s'est occupé de son corps, il l'a rétabli dans son corps. Deuxième étape, Jésus s'occupe de son âme. On ne saura pas par la suite ce qu'est devenu cet homme. Est-ce qu'il a fait preuve de reconnaissance et de gratitude envers Dieu? Ou bien est-ce qu'au contraire, il a tourné le dos à Dieu, il est retourné vers une vie de péché? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après avoir lu ce passage, après avoir lu ce que Jésus a fait pour cet homme, nous entendons le message qu'il y a pour nous, le message qu'il y a pour chacun de nous. Jésus ne nous abandonne jamais. Même si tous les indices autour de nous font penser qu'il n'est plus là, qu'il est parti, qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés, c'est faux. Comme je disais tout à l'heure, c'est faux. C'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. C'est une pensée qui est là, mais pour nous faire du mal. C'est une pensée qui est là pour nous faire murmurer. C'est une pensée qui est là pour nous couper de Dieu. Et ce n'est pas une pensée de Dieu. C'est une pensée de l'ennemi. Jésus est le torrent du passage. Le torrent du Zéred, c'est Jésus. Le malade est passé de la paralysie à la marche, comme nous sommes passés de la mort à la vie. Comme le peuple est passé du désert à la terre promise. L'homme était entouré pendant 38 ans de malades, de paralysés. Nous aussi, nous sommes certainement entourés de problèmes dans nos vies, de difficultés de tous ordres. La santé, les finances, le travail, je ne sais pas, la famille. Mais au milieu de ces difficultés, il y a des bontés. Les bontés de Dieu, elles sont là tous les jours. Ouvrons les yeux parce qu'elles sont là. Ouvrons les yeux parce que Dieu est là. Nous ne sommes pas privés de la présence de Dieu. Si nous reconnaissons chaque matin les bontés de Dieu, si nous lui rendons grâce, si nous gardons foi en lui, Dieu est là. Dieu est près de nous. Reconnaissons-le. Et si nous chutons, il va venir pour nous relever, pour nous établir, pour nous rétablir. Pour fonder une alliance avec nous. C'est sa promesse. C'est à nous de lui ouvrir la porte de notre cœur et lui dire, Seigneur, tu es le bienvenu, viens faire ton œuvre en moi. Que Jésus nous montre le chemin vers ce torrent de Zéred, qu'il nous conduise près de ce torrent où, après avoir passé le torrent, ce qui est derrière nous est définitivement passé et toutes choses devant nous sont devenues nouvelles. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta parole qui est tellement riche Seigneur. Et toi tu veux nous parler de temps et de temps de façon différente. C'est tellement bon de voir ta grâce Seigneur, c'est tellement bon d'écouter ton conseil, c'est tellement bon d'écouter ce que tu veux nous dire, parce que tu veux le bien pour nos vies Seigneur. Mais nous ne perdons pas de vue qu'au-delà du rétablissement que tu peux nous donner tout de suite dans nos problèmes, dans nos maladies, dans nos difficultés, nous voulons voir plus loin avec toi, parce que tu nous as promis bien plus qu'un rétablissement. Tu nous as promis bien plus qu'une guérison. Tu nous as promis la vie éternelle. Seigneur, tu es pour nous le chemin et la vérité. Seigneur, permets que nous marchions sur ce chemin chaque jour, sur ce chemin où nous ne nous fatiguons pas, sur ce chemin où nous avançons dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Seigneur, garde-nous près de toi, Seigneur. Fais-nous du bien. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs ici présents, les personnes qui écoutent ce message, Seigneur. Visite-les, fais-leur du bien. Tu connais leur situation, Seigneur. Toi, tu sais. Tu sais celui qui a perdu courage. Tu sais celui qui a perdu confiance. Ne permets pas, Seigneur, que dans leur cœur, la pensée de ton absence puisse rentrer. Parce que tu es là. Le Seigneur est près de toi. Tu es privé de sa présence, mais le Seigneur est près de toi. Il t'aime, il te tend la main. Il veut te rétablir. Il veut établir une alliance avec toi. Sois loué, Jésus, pour ton amour. Te rendons grâce. Amen.